Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 22 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les autorités de Kinshasa ont interdit toute marche politique cette semaine dans la capitale.
Ouverture d'une enquête en France sur la mort du chercheur guinéen Mamoudou Barry, mortellement agressé en marge de la finale de la CAN.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré s'exprime sur plusieurs questions d'intérêt national, dont l'insécurité et la cohésion sociale.
Réunion interministérielle de crise présidée ce matin à Londres par la Première ministre Theresa May sur l'affaire du pétrolier battant pavillon britannique arraisonné par l'Iran.
En sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les autorités de la capitale ont interdit l'organisation cette semaine de toute marche politique à Kinshasa en raison du climat tendu entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. C'est ce qu'a annoncé la police hier, les précisions de Jean-Roger Bion.
Le général Silvano Kasongo, chef de la police, a instruit les forces de l'ordre de prendre des mesures idoines. Toute personne qui osera marcher ou troubler l'ordre public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin, a-t-il fait savoir à la télévision nationale. L'escalade a commencé mardi lorsque des jeunes du parti du président Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ont annoncé pour aujourd'hui une marche contre la candidature de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe, considéré comme un dur de l'ancien régime, à la présidence du Sénat. En réaction, les jeunes pro-Kabila, les Bérets Rouges, ont promis eux aussi d'organiser ce même lundi une contre-marche pour soutenir la candidature de l'ancien garde des Sceaux à la présidence du Sénat en brandissant une autorisation du gouverneur de Kinshasa, un pro-Kabila. Le Sénat est contrôlé par des partisans de M. Kabila. Le ticket présenté par le FCC pour les 7 postes du bureau du Sénat ne compte aucun membre de CAP pour le changement, cache la coalition du président Tshisekedi. Cette dernière a signé un accord de coalition avec le Front commun pour le Congo, FCC de l'ancien président Kabila, largement majoritaire à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat. 6 mois après l'investiture du président Tshisekedi et plus d'un mois après la nomination de son premier ministre Ilunga Ilunkamba, proposé par l'ancien président Kabila, les négociateurs de CACH et du FCC peinent à se mettre d'accord sur la composition du gouvernement.
Une enquête a été ouverte en France après la mort d'un chercheur guinéen de l'université de Rouen. Cet universitaire a été mortellement agressé vendredi soir, peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations près de Rouen. Claire Morin-Gibourg.
De sources policières, Mamoudou Barry, 31 ans, a été agressé à Canteleu, dans la banlieue de Rouen. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé à Rouen où il est mort samedi. Selon son université, il a été victime d'une agression verbale puis physique d'une extrême violence qui lui ont causé des lésions cérébrales et l'ont mis dans un coma profond dès la soirée du 19 juillet alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec sa femme. Ses proches ont qualifié l'agression de raciste. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est exprimé sur Twitter « Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression ». Il appartiendra à la justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux, a-t-il écrit. Le procureur de Rouen, Pascal Prache, a confirmé que les investigations étaient en cours. Chercheur à l'université de Rouen, Mamoudou Barry venait de soutenir une thèse de droit sur les politiques fiscales et douanières en matière d'investissement étranger en Afrique francophone le 27 juin dernier.
Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré a évoqué avec 2 confrères de la presse locale divers sujets d'intérêt national. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, nous résume ce face-à-face.
C'est un Premier ministre globalement à l'aise qui s'est exprimé 1 heure durant sur plusieurs dossiers dominés par l'insécurité, la cohésion sociale et les questions de gouvernance d'une manière générale. Questionné sur l'affaire des 11 détenus décédés à l'unité antidrogue de la police nationale, le Premier ministre a promis l'accompagnement des familles des victimes en attendant la fin des enquêtes. Christophe Dabiré qui a insisté côté sécurité sur l'importance du G5 Sahel dans le dispositif de riposte aux terroristes avant de botter en touche sur la sortie du ministre burkinabé de la Défense qui dénonçait la duplicité supposée de la France dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi des propos du général français de Cointre qui lie la survie des pays du Sahel à la force Barkhane. Concernant la corruption, le Premier ministre a promis de renforcer les capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État pour la rendre plus efficace. Il s'est voulu aussi pédagogique sur la réduction du train de vie de l'État avant d'insister sur l'importance du dialogue pour résoudre les crises avec les partenaires sociaux. Christophe Dabiri a salué la participation de l'opposition au dialogue politique national dont tous attendent beaucoup afin de résoudre les grandes questions qui secouent le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Réunion interministérielle de crise présidée à Londres ce matin par la première ministre britannique Theresa May sur l'arraisonnement d'un pétrolier battant pavillon britannique par l'Iran. Londres a récusé hier la version iranienne de l'incident survenu deux jours auparavant dans le stratégique détroit d'Ormuz. Pour sa part, Téhéran a prévenu hier que le sort de ce pétrolier arraisonné avec ses 23 membres d'équipage dépendrait de la bonne collaboration de l'équipage à l'enquête. Le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, s'est entretenu hier avec ses homologues français et allemands. Ils ont convenu, selon ses services, que la sécurité du passage des navires dans le détroit d'Ormuz est une priorité absolue pour les pays européens, tout en évitant toute escalade possible dans la région.
À Hong Kong, une nouvelle manifestation anti-Pékin a dégénéré en fin de journée hier. La police a tiré des balles en caoutchouc. Des détails avec Yakuba Ouedraogo.
Pour le septième week-end d'affilée, les manifestants anti-gouvernementaux ont défilé dans les rues de Hong Kong. Selon les organisateurs, près de 430 000 personnes ont participé à la marche de dimanche. La manifestation a débordé jusqu'au bureau de liaison chinois représentant le gouvernement de Pékin sur lequel les protestataires ont jeté des œufs et inscrit des graffitis. Dans la soirée, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et tiré des balles en caoutchouc pour disperser des groupes de protestataires. Depuis le 9 juin, Hong Kong est le théâtre de manifestations contre le gouvernement local pro-Pékin, marqué souvent par des affrontements entre des contestataires radicaux et la police. Le mouvement est parti d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. La contestation s'est élargie à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, en particulier l'indépendance de la justice.
Ici aux États-Unis, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, le démocrate Gerald Nadler, a dit dimanche à Fox News que le procureur spécial Robert Mueller donnera des preuves très substantielles qui démontreront la nécessité d'engager une procédure de destitution du président républicain Donald Trump. Monsieur Mueller a mené l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, ainsi qu'une possible coordination avec la campagne du candidat Trump. Il doit témoigner ce mercredi devant deux commissions de la Chambre des représentants. Monsieur Trump estime avoir été exonéré par le rapport Mueller, et les républicains reprochent aux démocrates de ressasser, selon eux, une affaire déjà réglée.
Le mouvement des non-alignés qui compte 120 pays a réclamé hier ce qu'il a appelé la levée des sanctions économiques unilatérales dans une déclaration adoptée lors d'une réunion ministérielle à Caracas où les intervenants ont fustigé la politique américaine envers le Venezuela, l'Iran et la Syrie. Pour rappel, ce mouvement a été fondé à l'époque de la guerre froide en 1961 à Belgrade. Un sommet des non-alignés est prévu en octobre à Bakou, l'Azerbaïdjan, et sera le prochain pays à présider le mouvement. Fin de ce journal. Sur VOA Afrique, place maintenant au journal de la Coupe d'Afrique des Nations avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier numéro du journal de la CAN. Vous le savez, l'Algérie est sortie vainqueur de la 32e édition de la CAN Égypte 2019. En finale, vendredi dernier, les Fenech ont battu les Lions de la Teranga 1-0 au Caire. Dans son coup de sifflet depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur cette finale de la première CAN à 24 équipes.
Bonjour. C'est sur un match fermé et une victoire étriquée d'un but à zéro de l'Algérie sur le Sénégal que s'est achevée vendredi la 32e édition de la CAN. Pourtant, tout avait bien commencé avec ce but précoce de Bounedja dès la deuxième minute de jeu. Contre toute attente, les Maghrébins vont choisir de reculer et s'appliquer à détruire le jeu de l'adversaire en multipliant des duels acharnés afin de gêner les transmissions des Sénégalais, forcés de sauter le milieu du terrain pour servir des attaquants privés d'appui. Les Lions de la Teranga vont multiplier des assauts désespérés pour recoller au score, mais le manque de lucidité dans le dernier geste, tout comme la maladresse dans l'exécution des nombreux coups francs obtenus, vont rendre ces efforts vains. On peut donc dire que dans ce match, l'enjeu a fini par tuer le jeu par la volonté du sélectionneur Djamel Belmadi, qui l'espace d'un soir s'est fortement inspiré du champion du monde français Didier Deschamps, comme il l'a déclaré en fin de rencontre. Je cite, « Pour gagner, le talent ne suffit plus, il faut aussi savoir souffrir. » En effet, c'est la capacité d'adaptation tactique de Belmadi au jeu de chaque adversaire rencontré et à chaque situation qui explique le succès final de son équipe dans cette CAN. L'Algérie retrouve donc le prestigieux trophée 29 ans après son premier sacre à domicile en 1990. Mais c'est l'indescriptible liesse populaire provoquée par cette victoire au pays et hors du pays qui fait l'événement. Le Maghreb, longtemps soupçonné, à tort ou à raison, de snober la CAN au profit de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, semble avoir compris clairement qu'il lui faut d'abord valoriser ce qui se passe chez lui en Afrique et améliorer son palmarès avant d'aller à la conquête du monde. Tant mieux pour la CAN et la fraternité africaine. Rendez-vous au Cameroun et à très bientôt.
De retour samedi à Alger, une immense foule aux couleurs vert et blanc est venue acclamer les Fennec. Le bus transportant les joueurs était frappé des deux étoiles et de l'inscription, je cite, « Nous sommes fiers de vous ». Les joueurs ont entonné le célèbre « One, two, three, vive l'Algérie », repris ensuite en chœur par la foule autour du véhicule. Les finalistes malheureux sénégalais, eux aussi, sont rentrés samedi dernier à Dakar et ont été accueillis par des milliers de Sénégalais qui ont tenu à leur rendre hommage pour l'ensemble de leur parcours. De retour du Caire, notre correspondant dans la capitale sénégalaise, Seydina Abagué, nous relate cet accueil.
La défaite en finale face à l'Algérie n'aura finalement pas éteint la passion que les Sénégalais ont vécue durant cette CAN. Par milliers, ils sont sortis accueillir les Lions de la Teranga. Pour les supporters, le sentiment de fierté domine la déception.
Je suis là pour soutenir les Lions, pour les encourager. Pour leur dire de ne pas décourager et que ça va venir. Donc, Darama les Lions.
C'est une fierté pour tous les Sénégalais parce qu'au départ, on était 24. À l'arrivée, on est deux. Malheureusement pour nous, on a perdu la finale. Mais ça, on doit encore féliciter les joueurs, l'encadrement.
Je suis venu soutenir les Lions, les encourager, leur dire que de ne pas se décourager.
Pour le ministre des Sports, Matarba, les Lions ont été brillants malgré la défaite et ils assurent qu'ils vont revenir plus forts grâce au peuple sénégalais.
Ce qui nous frustre, c'est qu'on est plus fort que l'Algérie. Et l'Algérie est rentrée avec le trophée. Et on aimerait descendre ici avec le trophée pour le bonheur de notre peuple. Mais le peuple nous a rendu en tout cas un hommage parce que cette mobilisation exceptionnelle réconforte tous les acteurs du sport sénégalais, surtout du football. Et il faut retrousser les manches, continuer le travail. Le travail n'est pas terminé, la mission ne sera pas terminée. Tous ceux qui resteront dans ce domaine-là devraient croire à leur peuple parce que ce peuple-là a tout donné pour accompagner l'équipe nationale.
Pour le président Macky Sall, les Lions ont fait un parcours exceptionnel et il espère qu'en 2021, ils reviendront du Cameroun avec la Coupe d'Afrique.
Vous nous avez fait rêver. Vous nous avez donné du bonheur. Vous nous avez fait vibrer. En sublimant nos valeurs ancestrales de combativité, de solidarité, on y a tous cru jusqu'à la dernière minute, mais vous êtes tombés les armes à la main. Immédiatement, mes chers compatriotes, il nous faut nous remettre au travail pour gagner enfin le trophée continental dans 2 ans, Inch'Allah.
Finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Sénégal a égalé son meilleur parcours dans la compétition. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Le sélectionneur du Maroc, Hervé Runa, a annoncé sa démission hier dans un communiqué posté sur son compte Twitter. 2 semaines après l'élimination surprise de son équipe lors de la CAN, il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c'est une décision inéluctable, prise avant la CAN 2019, a déclaré le sélectionneur arrivé en 2016 et resté 41 mois à la tête de l'équipe nationale marocaine. À la surprise générale, le Maroc, finaliste de la CAN en 2004 et cas de finale finaliste lors de la dernière édition, a été éliminé dès les 8e par le Bénin. C'est tout pour ce dernier numéro du journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, après l'accord de 448 millions de dollars conclu avec le Fonds monétaire international pour sauver l'économie du pays, le gouvernement et les acteurs de l'opposition, selon notre correspondant sur place, ne cessent de se contredire sur les capacités des autorités à appliquer les 48 mesures fixées par le FMI. Le Premier ministre Clément Mwamba affirme que l'accord est parfaitement maîtrisable, alors que l'opposant Mathias Nzo voit un échec de ce programme dès la fin de cette année. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis la sortie médiatique du Premier ministre sur l'accord que le Congo a conclu avec le Fonds monétaire international, beaucoup de salive coule. Clément Mwamba indique que cette aide ne sauvera certes pas le Congo, mais elle est nécessaire pour la relance de l'économie, mais surtout pour la bonne gouvernance.
C'est un bon programme, on n'a pas à en avoir honte. Mais le programme, il est exigeant, parce que c'est 48 mesures à mettre en œuvre. Elles sont parfaitement maîtrisables par le gouvernement. Mais c'est une nouvelle cadence, une nouvelle organisation qu'il faut autour de cela. Donc il va falloir que partout, quand vous avez l'argent public, s'impose un certain nombre de règles dans son utilisation. C'est comme ça que nous allons conduire le programme.
L'accord est bon, il ne devrait pas créer une tension sociale comme par le passé, selon Claude Martial Mbon, un observateur de la vie économique.
Aujourd'hui, ce ne sont pas des programmes d'ajustement structurel où on venait avec trop d'austérité. C'est vrai, on réduisait le train de vie de l'État, on ne recrutait plus dans la fonction publique et même ceux qui étaient dans la fonction publique n'avaient plus d'avancement et d'effets financiers. Mais aujourd'hui, avec le FMI, ce n'est plus le même programme et même le remboursement, c'est un prêt à taux zéro. C'est une bonne chose.
Flirtant avec les fins lignées de la finance congolaise, l'analyste économique Alphonse Ndongo estime que le Congo a du potentiel pour exécuter les 48 mesures fixées par le FMI, mais à condition que les autorités payent le prix du renouvellement.
L'essentiel de ces mesures pourrait être appliqué à très court terme. Mais non, il faut pour cela un gouvernement de combat. Pour l'instant, le gouvernement est un gouvernement politique. Il sort d'une situation assez trouble que nous avons connue au sortir de la présidence de 2016. Le combat, tout le monde le sait, est économique.
Pour Mathias Nzon, ancien ministre des Finances et aujourd'hui leader de l'opposition, il faut attendre la toute première revue du FMI en décembre prochain pour savoir si le Congo achèvera son programme avec le FMI en mars 2022.
Attendons, d'ici le 31 décembre, la première revue, au bout de 6 mois, vous allez voir, ça sera donc un cré rouge. Puisque, mais bien sûr, on n'aura ni reconstitué les réserves de change, on n'aura ni retraité la dette, on n'aura pas rapatrié les recettes d'exportation. On n'aura pas clôturé les comptes d'enfants à l'extérieur pour rapatrier l'argent au Congo. On n'aura pas utilisé les canaux officiels pour payer les salaires des Congolais. C'est toujours les canaux pirates, aller au système des vendeurs à la rigueur dans notre pays.
Selon cet accord conclu le 11 juillet dernier, le Congo percevra une mise à bouche de 25 milliards de francs CFA avant d'encaisser sa toute première tranche, celle-là fixée à 49 milliards. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, revenons sur l'émotion qui est restée vive dans le pays plusieurs jours après le décès de 11 personnes gardées à vue dans les locaux de l'unité antidrogue de la police nationale. Le gouvernement a annoncé des enquêtes et quelques sanctions, nous a dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Les familles des victimes restent partagées entre colère et tristesse. La mort subite des 11 personnes dans l'unité antidrogue de la police nationale est inadmissible, assène Flavien Dima, frère d'une victime.
C'est la police qui m'appelle à l'aide d'unité judiciaire de la drogue. C'est là maintenant qu'ils ont dit que mon frère fait partie de ces 11-là. C'était difficile. Je veux une transparence par rapport à ça, parce que je ne peux rien comprendre. Personne n'a su qu'on l'a interpellé. Il faut que je puisse savoir ce qui s'est passé.
Parmi l'un des rares parents à avoir pu rencontrer l'un des détenus, son petit frère, sa mort, Issaka Ouedraogo, qui ne revient toujours pas.
Je suis parti là-bas, je l'ai trouvé. L'officier me disait que de venir le lundi matin. Lundi matin, je pars. Voilà, on nous annonce que nos parents qui sont là sont décédés. Vraiment, ça nous a touché au cœur. Jusqu'à présent, on n'a même pas vu le corps même à l'œil. On veut la lumière, sinon ça ne va pas.
Après avoir fouillé en vain les hôpitaux et commissariats, Sini Ouedraogo ne décolère pas depuis qu'il en a été informé.
On est arrivé, il était déjà 17h. Qu'il est 17h, qu'ils ont suspendu leur travail, que c'est pas demain. Il tenait un arbre, Kalachnikov. Il est venu devant la guérite. Il a tenu l'arme là en parlant, en nous menaçant. C'est qu'il est venu le lundi matin. Quand on est allé, qu'ils ont la tristesse de nous annoncer que malheureusement, qu'ils sont venus ouvrir le matin, le lundi matin, qu'ils sont décédés. Et c'est inacceptable, incompréhensif. En tout cas, ce qu'on attend, c'est la justice. Voilà, on veut en tout cas une lumière sur cette affaire. En tout cas, s'il y a la justice, ça apaise un peu le cœur.
C'est l'incompréhension pour les proches des victimes. Comment 11 personnes peuvent-ils mourir de la sorte? On t'informe que ton frère est emprisonné et du coup il meurt comme ça. Nous voulons des explications. C'est eux qui l'ont tué. Au détour d'une sortie de promotion de l'académie de police, le président de la République a dit son indignation. Aucune impunité ne sera tolérée, a martelé le président Roch Kabore.
Les règles en matière de mise en cellule dans ces commissariats n'ont pas été respectées. C'est des choses qui sont inacceptables aujourd'hui, qui ne peuvent pas rester dans l'impunité. Et c'est pourquoi d'ores et déjà, j'ai instruit en attendant que nous puissions terminer avec la police judiciaire, que toute la chaîne qui relève du gouvernement de ses services soit suspendue. En attendant donc que nous voyons par la suite les mesures que nous prendrons après avoir fait le constat par les médecins légistes.
Des observateurs notent que le président Kabore avait promis justice lors du massacre de Yirgu, le jour de l'an lorsque plus de 40 peuls avaient été abattus par des milices villageoises. À ce jour, aucune interpellation n'a eu lieu concernant ce massacre. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Comment aider les jeunes à mieux connaître la religion afin qu'ils ne se laissent pas recruter par des groupes djihadistes qui sévissent dans le centre du Mali? C'est la mission que s'est fixée l'Association des prédicateurs pour la préservation de l'unité et de la paix sociale basée à Mopti. Au micro de Modibo Dambélé, le fondateur de cette association, Ousmane Boukoum.
Nous voulons agir pour que la paix s'installe dans l'ensemble du Mali, particulièrement le centre du Mali.
Quel est l'objet de votre visite ici aux États-Unis?
On m'a invité pour assister à une conférence internationale sur la liberté religieuse, comment vivre ensemble tandis que nous avons la différente religion. Et c'est ça qui m'a amené ici pour échanger avec nos amis.
Que dit le Coran sur la liberté religieuse?
La liberté religieuse, Dieu nous dit dans Sourate la Vache, il dit « Nulle contrainte à la religion, car le vrai chemin c'est distinguer du mauvais. » Donc on ne doit pas contraindre quelqu'un à la religion, car ça n'aboutira à rien qu'à causer des problèmes de déstabilisation.
Et aujourd'hui, nous savons qu'à cause de la violence, on peut dire qu'il y a une certaine violence intercommunautaire au Mali, entre les Peuls, les Dogons, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et que peut-on faire?
Cette situation a été causée par les individus mal intentionnés, qui ne sont ni Dogons, ni le Peul, qui veulent tout de même semer la pagaille entre ces ethnies-là. Et nous, notre devoir est de proposer des messages positifs à chacun des ces communautés-là, de faire attention de ne pas tomber dans de tels pièges et qu'ils soient vigilants. Nous le propageons à travers les réseaux sociaux, autant côté des ulémas, les savants religieux et les jeunes aussi, donc pour contrer les messages radicaux.
Et aujourd'hui, nous savons que vous avez rencontré, depuis votre arrivée, beaucoup de personnalités américaines et aujourd'hui, je crois que vous avez dû rencontrer les membres du Congrès. Quel est le message que vous leur avez apporté?
Nous avons dit aux Américains qu'ils reviennent au Mali, qu'ils prêtent attention à ce qui se passe au Mali, surtout au niveau des centres, qu'ils s'intéressent à ce qui se passe pour qu'ils nous apportent leur aide, qu'ils assistent. Nous avons besoin fortement de leur assistance pour contribuer à la stabilité de la région.
Aujourd'hui, nous savons que dans l'exercice de cette noble mission, vous faites face à beaucoup d'écueils. Quels sont les problèmes que vous rencontrez?
Nous avons besoin de soutien des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce travail-là pour pouvoir s'engager davantage dans la voie de sensibilisation, impliquer un peu de toute la communauté du centre pour qu'on puisse transmettre les messages, comme je l'ai dit, message qui nous apporte la paix.
Eh bien, c'était Ousmane Boukoum, fondateur de l'Association des prédicateurs pour la préservation de l'unité et de la paix sociale, basée à Mopti, au Mali. Il participait ici à Washington, au département d'État, où l'on a organisé des conférences, ateliers sur la liberté religieuse dans le monde. Ces ateliers ont été organisés pendant 3 jours par le département d'État américain. Le vice-président Mike Pence a ouvert les travaux. Plusieurs personnalités politiques et acteurs dans le domaine religieux étaient également présents. Que retenir de cette rencontre? Notre point de vue avec Eric Manirakiza, qui s'est entretenu avec l'un des participants, le professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, Jean-Pierre Carré-Gueye.
Pour moi, ce que j'ai trouvé d'assez important dans ces ateliers et conférences, c'était le fait que les gens se rendent compte de plus en plus de l'importance de l'élément religieux. C'est-à-dire, se rendre compte que les questions sociales, politiques, économiques ne peuvent pas être séparées avec la croyance des gens. Et ça, c'est un élément que j'ai trouvé assez important. Et que, au niveau des États-Unis, par exemple, que les membres du gouvernement soit là, et c'est qu'ils se rendent compte vraiment de l'importance de cet élément. Et je crois que c'est aussi lié à leur histoire politique.
Quels sont les enjeux pour l'Afrique, par exemple?
Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux pour l'Afrique. C'est vrai, c'était pas une réunion sur l'Afrique en soi. Le thème, c'est vrai, central, c'était la liberté religieuse. Et donc, je crois que pour l'Afrique, l'élément de la religion ou de la persécution religieuse est aussi lié à ce qui est en train de se passer dans plusieurs pays africains actuellement. C'est pas né en Afrique, mais les conflits qu'on a, que ce soit au Nigeria avec les Boko Haram, d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et maintenant, et au niveau même de l'Afrique de l'Est, que ce soit aussi au niveau de l'Afrique centrale, entre chrétiens et musulmans, et même l'Est du Congo, Ouganda, et Kenya dans une certaine mesure, Somalie évidemment. Bon, je crois que l'Afrique ne peut pas être indifférente à ce phénomène, même si ça a été importé, n'est-ce pas?
Et pour la région des Grands Lacs, la RDC, le Rwanda, le Burundi, est-ce qu'on voit ce genre de violence?
Disons, il y a deux choses ici. Dans d'autres pays, quand on parle par exemple de la liberté de culte, c'est que en général, des minorités religieuses sont opprimées dans un certain nombre de pays. Et ça peut être un phénomène d'abord religieux, c'est-à-dire les grandes religions où les majorités, par exemple, s'attaquent à des minorités, ne permettent pas aux autres d'exercer leur foi. Et ça peut être aussi des phénomènes des États qui s'attaquent aussi à des religions. Donc ça existe. Mais au niveau des Grands Lacs, chaque pays a ses réalités. Par exemple, au niveau du Congo, la Conférence épiscopale nationale joue un rôle très 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 important. Et ça a toujours joué un rôle important depuis le temps de Mobutu, par exemple, sur la démocratisation du pays. Il y a eu plusieurs documents des évêques. Et l'Église est présente au niveau des actions sociales aussi. Au niveau du Rwanda, c'est vrai, on a eu à ces tragédies où l'Église était liée, donc où la question, par exemple, qu'on se poserait, comment est-ce que la foi n'a pas pu sauver des gens? Ça, c'est la question qu'on se poserait. Mais donc, je ne vois pas en soi un phénomène de persécution religieuse, me semble-t-il, dans les pays des Grands Lacs.
La décision du gouvernement de fermer certains liens de culte, est-ce que on peut le prendre dans ce cadre-là?
Quel gouvernement?
Du Rwanda.
Ok, d'accord. Oui. Non, je pense que pour le cas du gouvernement du Rwanda, je ne crois pas qu'il y ait une seule religion ou quelqu'un à qui on a interdit, par exemple, d'exercer sa foi, loin de là. Mais je crois que c'est plutôt l'amélioration des lieux des cultes. C'est-à-dire, si nous considérons la liberté religieuse, elle doit s'exercer aussi dans un cadre décent. C'est plutôt dans ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, voilà, la liberté de culte, et puis vous amener des gens dans un lieu où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de latrine, etc. Et je crois que c'est ça aussi, c'est qui fait partie aussi des droits des gens, n'est-ce pas? Et deuxièmement, je crois un autre phénomène au niveau du Rwanda, c'était aussi exiger quand même que les pasteurs aient une certaine formation théologique.
Est-ce important? Quand on prêche la foi, c'est important d'avoir un diplôme?
Mais c'est important, de savoir qu'est-ce que vous apportez aux gens, n'est-ce pas? Parce que d'une part, vous parlez d'une certaine liberté religieuse, liberté de conscience, et puis en même temps, vous manipulez les gens. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une certaine liberté? C'est-à-dire, quand vous n'avez pas une certaine formation religieuse, je crois que ça pose quand même un problème.
Jean-Pierre Carré-Gueye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, Il fait des recherches sur les questions religieuses et des génocides. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.